Écoute.
C'est la vie des élèves à la maison.
C'est la radio qui réunit les élèves en toute sécurité.
Pendant la quarantaine.
Salut MTX. Faudrait qu'on change de jingle. On est de retour en classe depuis une semaine. Au programme, deux témoignages sur les 8 semaines de semi-confinement, une présentation d'une bande dessinée, une chronique qui t'explique comment cette pandémie a commencé en Chine et un récit surprenant de Monsieur T à propos de Multicube. Sans oublier un nouveau titre du projet Imagine Music, Les murs de poussière de Francis Cabrel.
Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux.
Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse année 2020 et le Covid-19, autrement dit le coronavirus, et comment je l'ai vécu. Alors au début, je me suis réjouie de plus aller à l'école, mais très vite, j'ai compris que ça n'allait pas être aussi facile que je le pensais. On n'avait presque pas le droit de sortir. Puis les enseignants commençaient à nous donner du travail à faire, beaucoup de travail. Les 2 premières semaines, c'était amusant, mais ensuite, je commençais à m'ennuyer. Le week-end, normalement, j'allais chez mon père et là-bas aussi, je faisais rien de spécial. Je ne pouvais pas sortir avec mes amis, mais je suis allée quand même dehors courir et je faisais des exercices à la maison pour rester en forme. Après, il y a eu les vacances. Mon activité principale était dormir, Netflix et aller sur le bateau. Dit comme ça, on dirait que c'est cool, mais faire ça pendant 2 semaines, c'est un peu répétitif. Parce que normalement, je devais aller voir ma famille en Roumanie, du coup, c'était mieux aller en Roumanie que rester à la maison. Ensuite, l'école à distance reprit et le Conseil d'État a décidé que les écoles allaient rouvrir le 11 mai. Et là, ce fut la déprime. Je me réjouissais de voir mes amis. Mais je me savais très vite que j'allais repenser aux prochaines vacances. Mais je regrette vraiment de ne pas être en 8 ou en 10e parce que les examens sont annulés. Mais je suis pour rien. Donc si vous pensez que la période de confinement est cool, vous aurez raison au début et à la fin vous serez content de retourner à l'école même si vous vous dites que le contraire. La chose cool, c'est que j'aurai l'école 1 jour sur 2 pendant 1 mois et que les magasins vont gentiment rouvrir. Voilà, vous savez maintenant comment est ma version du Covid-19. Allez, salut!
Je m'appelle Saron et je suis confinée chez moi à Montreux, en Suisse. Je suis confinée avec mes parents et mon frère. Je reste souvent dans ma chambre avec mon frère et je suis souvent sur mon bureau pour étudier et travailler. Mes principaux activités pendant le confinement sont le sport, par exemple le volleyball ou le basketball. Et sinon, je joue souvent aux jeux vidéo. Je fais souvent de la cuisine, beaucoup de pâtisseries, comme des gâteaux ou des crêpes. Par rapport à l'école à distance, je fais comme je peux. Je trouve que personnellement, les profs nous surchargent un peu, mais bon, ils font comme ils peuvent eux aussi. L'école à distance est une manière très différente d'apprendre, je trouve. Mais on s'y habitue. Ça permet de développer notre autonomie et je trouve ça bien. Je sors dehors pas très souvent, voire jamais. Si je sors, c'est soit pour prendre de l'air et voir quelques amis, soit pour faire les courses avec ma mère. Quand je sors, la plupart du temps, je suis à pied, mais ça peut m'arriver de prendre les transports publics, comme le bus ou le train. Lors des week-ends, où il fait mauvais temps, je regarde des séries Netflix ou je fais de la cuisine. Quand il fait beau temps, je sors avec mes amis au bord du lac de Montreux, en respectant les règles barrières, bien sûr. Mon programme pendant les vacances n'est pas très différent que celui de mes week-ends. Je n'ai pas eu de contact particulier avec le reste de ma famille pendant ce confinement. Le plus grand avantage durant ce confinement est que la durée de mon sommeil est prolongée. Par contre, le désavantage est que l'on ne puisse pas sortir quand on veut.
Dame i gospodo, vi slušate Radio MTX, Radio dobrog raspoloženja.
L'adoption. L'adoption est une BD scénarisée par Diderot et illustrée par Arnaud Monin. Elle est composée de 2 tomes et a été éditée aux éditions Bambou Édition dans la collection Grand Angle. Elle est sortie en 2016 pour le premier tome appelé Kinaya et en 2017 pour le tome 2, La Garoua. Avec la sortie du tome 2, a aussi été éditée l'intégrale appelée simplement L'Adoption, composée des 2 tomes. Diderot est connu pour avoir par exemple écrit L'élève du Cobu ou encore Tamara. Arnaud Monin a quant à lui illustré la BD Merci, également écrite par Diderot. Pérou, région d'Areguapa, se situant près de l'océan Pacifique, 23 juin 2001, à 15h33min14s, heure locale. Voilà où et quand commence notre histoire, au moment où un tremblement de terre de magnitude 8,4 sur l'échelle de Richter, l'un des plus meurtriers qui ait touché le Pérou depuis 1970, se produit. Mais au fond, on va oublier cet incident rapidement, on habite loin de là, non ? Gabriel, un homme âgé de 74 ans, un peu bourru et grincheux sur les bords, mais avec un grand cœur, va devoir apprendre à être un grand-père, lui qui n'a jamais vraiment été un père. Lorsque son fils, Alain, adopte Kinaya, une petite péruvienne de 4 ans, rescapée et orpheline du tremblement de terre. Au début, Gabriel ne fait que de se plaindre, il n'est pas prêt à accepter le choix d'Alain et son nouveau rôle. Mais malgré cela, Gabriel finit par apprécier le fait d'être un grand-père, et un véritable lien d'amour indestructible se crée entre lui et Kinaya. Mais le jour de son anniversaire, ce lien va être mis à rude épreuve. La police vient chercher Alain pour enlèvement d'enfant, qui est condamné à 3 ans de prison par la suite. Kinaya, dont l'adoption comporte des irrégularités dans la procédure, est renvoyée au Pérou, dans sa famille, par les services sociaux. Le monde s'écroule pour Gabriel. Pourra-t-il retrouver Kinaya ? Réussira-t-il à pardonner cette trahison à son fils ? Pourra-t-il enfin devenir un vrai père pour son fils ? Lisez la BD et vous le saurez. Cette BD est magnifique et je conseille vraiment de la lire. Elle nous fait nous poser des questions sur l'humanité et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour offrir de l'amour et une meilleure vie à une personne, qu'on la connaisse ou non. Pour reprendre la BD, l'amour ne se vole pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour se mérite. L'histoire se déroule du point de vue de Gabriel tout au long de l'histoire. Étant donné que le texte est une BD, il n'y a que des dissous, cours direct. Les 2 personnages les plus importants sont donc Gabriel et Kinaya. Gabriel est un personnage qui a l'air froid et bourru au premier abord, mais qui devient vite attachant. Au début, il ne fait que de se plaindre et d'être cassant, comme le prouve ce passage. Kinaya est ta petite fille, et pour un paquet d'années encore, il va falloir que tu t'y fasses. Désormais, elle fait partie de ta vie. Comme en arthrose, tu veux dire ? Mais il finit par s'ouvrir au monde, à sa famille et à Kinaya elle-même. Dans la BD, sa femme le compare à Michel Simon dans « Le vieil homme et l'enfant ». Le personnage qu'il incarne dans le film est un vieil homme plutôt raciste et bourru, qui doit héberger un petit garçon juif sans le savoir. Un vrai lien d'amour finit par se créer entre les 2 personnages, l'incomparable celui de Gabriel et Kinaya. Quant à elle, Kinaya est une petite fille souriante et pétillante, même si parfois la tristesse d'avoir quitté son pays reprend le dessus. On n'apprend pas vraiment beaucoup de choses sur elle, mais on la voit grandir et évoluer, surtout aux côtés de Gabriel. Le thème principal de la BD est bien entendu l'amour. Il est présent tout au long de l'histoire à travers les relations de Kinaya et Gabriel, Gabriel et Alain, ou encore Kinaya et ses parents français. Les illustrations de cette BD sont tout simplement magnifiques. Elles sont très colorées et réalistes avec beaucoup de détails. Les expressions faciales sont très saisissantes, les prises de vue sont belles, émouvantes et attendrissantes. On ressent à travers elles l'amour et le lien des protagonistes. Le dessinateur s'arrête sur des regards échangés, des mains qui se frôlent. Même sans un mot, les illustrations parlent d'elles-mêmes et nous font comprendre énormément de choses implicites. Je conseille vivement cette BD, que ce soit pour l'intrigue, les illustrations ou simplement pour passer un bon moment devant une BD émouvante. Je n'ai pu m'empêcher de lâcher quelques larmes et je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes qui verront cette BD.
I used to roam días, señoras y señores. A Radio MTX, a Radio de Boa Disposición.
Le Covid-19. Comment tout cela a commencé? J'ai regardé un documentaire et cela m'a donné envie de faire une chronique radio sur ce sujet, dont tout le monde parle. C'est une émission à la télévision suisse romande, Temps présent, qui a diffusé ce film le 5 mars dernier. Le titre du documentaire, c'est Coronavirus, enquête aux origines du désastre. Début décembre 2019. Des personnes suspectées d'être contaminées par le coronavirus sont arrêtées à leur domicile. Ça arrive tous les jours en ce moment-là en Chine. Cette épidémie a commencé dans la ville de Wuhan, au centre du pays. Au tout début de cette crise, l'État chinois a tout fait pour cacher l'épidémie. Pourtant, 8 médecins ont tenté de donner l'alerte, mais ont été réduits au silence. L'un d'eux, Li Wenlang, est décédé du coronavirus le 7 février 2020. Il faut savoir que la Chine n'est pas une démocratie, c'est une dictature. On ne peut pas s'exprimer libérément. Le pouvoir n'hésite pas à utiliser la violence pour faire taire les gens. Le lundi 30 décembre, une dizaine de patients ont été hospitalisés pour pneumonie atypique, peut-être virale. Habituellement, une pneumonie est due à une bactérie et on sait lutter contre les bactéries grâce aux antibiotiques, par exemple. Mais là, ça ne marche pas. C'est un virus et on ne le connaît pas. La question que se posent les médecins est de savoir s'il s'agit d'un épisode isolé ou s'il y a déjà un début de transmission interhumaine. Et si c'est le cas, le risque épidémique est réel. Le 30 décembre, seuls quelques scientifiques dans le monde sont au courant. La Chine informe discrètement l'OMS d'un début d'épidémie. L'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. L'épidémie est donc partie de Wuhan, une ville qui compte plus de 11 millions d'habitants. C'est plus de 5 fois la population de Paris. N'oubliez pas que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Plus d'un milliard de personnes. Tout aurait commencé dans le marché de Wuhan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de marché, il y a des animaux vivants qui sont vendus illégalement pour être mangés. Par exemple, des rats, des serpents ou même des chauves-souris. Et le problème, c'est que ces animaux sauvages peuvent être porteurs de virus. Ils sont souvent entreposés à côté d'autres aliments, dans le marché du sud de la Chine, cohabitent des espèces animales qui ne se croisent pas dans la nature. C'est ça qui permet des sauts de virus entre animaux, et c'est à cette mutation de virus animal en virus humain à laquelle on a assisté aujourd'hui. Cela lance un débat sur ces pratiques de vente d'une manière très peu contrôlée, très peu hygiénique des animaux sauvages. Début janvier, le marché de Wuhan est fermé et désinfecté. Même si des rumeurs circulent, la population n'est toujours pas au courant d'un potentiel épidémie de coronavirus. Le 7 janvier, les autorités chinoises annoncent à l'OMS que c'est un nouveau coronavirus. On va donc l'appeler Covid-19 parce que cette maladie est apparue en 2019. Le 11 janvier, la télé d'État annonce un premier mort. En Chine, personne n'a oublié le SRAS, une épidémie de coronavirus dont la chose provenait déjà d'un animal sauvage et qui avait fait 800 morts en 2003. Ce n'est que le 20 janvier, presque 3 semaines après l'alerte discrète à l'OMS, que les autorités chinoises reconnaissent enfin officiellement l'existence d'une nouvelle épidémie. Xun Nanchas, qui est l'épidémiologiste qui a révélé l'importance et la gravité de l'épidémie du SRAS en 2003, c'est un héros en Chine. Il se rend à Wuhan. Il indique que ce nouveau coronavirus peut se transmettre d'homme à homme. Le 22 janvier, on est 23 jours après la première alerte à l'OMS. L'OMS se veut toujours rassurante. Le directeur général actuel de l'OMS vante les louanges de Xi Jinping et des autorités chinoises dans leur gestion de la crise. On a là le sentiment à un moment que l'OMS en fait trop. Il y a une gestion très politique de la situation internationale. La Chine a beaucoup d'influence sur l'OMS. Il y a eu une directrice générale chinoise à l'OMS et la Chine continue à toujours avoir des réseaux à l'intérieur de l'organisation. Le 23 janvier, la ville de Wuhan est mise en quarantaine. L'annonce officielle a été faite dans la nuit à 2h du matin. Elle dit qu'à partir de 10h, il ne sera plus possible de quitter la ville. Les gares vont être fermées, les aéroports aussi. Et dans la nuit, des gens vont essayer de partir. Ils se précipitent à la gare pour prendre le dernier train. Et là, il y a 1 million de personnes à peu près qui ont réussi à s'en aller ainsi. Ça veut dire 1 million de personnes éventuellement contaminées et qui peuvent donc peut-être propager le virus ailleurs. En quelques heures, la ville est coupée du monde. Et seules les vidéos qui s'en sortent viennent des réseaux sociaux. Les rues de Wuhan sont désertes, des images surréalistes pour une ville de plusieurs millions d'habitants. Mais pendant ce temps-là, ce sont les hôpitaux qui sont débordés par un afflux de gens qui parfois n'ont pas la maladie, mais juste de la fièvre pour d'autres raisons. Ils se retrouvent à l'hôpital en compagnie de gens contaminés, et donc l'hôpital est devenu un lieu de crise. Le 25 janvier, 26 jours après la première alerte, l'État chinois met en scène des chantiers gigantesques pour rassurer sa population. Et aussi, envoyer un message à la communauté internationale. On agit, on s'en occupe, ça permet à la propagande chinoise de faire oublier tous les ratés. C'est Xi Jinping en personne qui le dit. On a un ennemi à vaincre, c'est le virus. C'est même un démon, a-t-il dit lors d'une rencontre avec le directeur de l'OMS. Il présente le personnel médical comme des héros. Ce sont les infirmières et les médecins. Et ce sont aussi les ouvriers qui construisent à toute vitesse des nouveaux hôpitaux. Mais l'État chinois montre aussi les traîtres. Ce sont des fonctionnaires locaux qu'on va présenter comme étant les coupables du retard d'information. Mais à Wuhan, un homme refuse d'être considéré comme un traître. C'est le maire de la ville. Il reconnaît dans une interview qu'il n'a pas révélé les informations en temps voulu et qu'il aurait dû mieux chercher la vérité. Mais il ne pouvait pas transmettre les informations sans l'approbation du gouvernement. Car les épidémies en Chine sont considérées comme un secret d'État. Le maire n'avait pas l'autorité pour donner les informations. Il lui fallait un feu vert des échelons supérieurs à Pékin. En gros, on a un bouc émissaire, un coupable idéal, qui est ce maire, qui a reconnu sa responsabilité. Mais il refuse de se taire et accuse le gouvernement chinois. Le 28 janvier, au lendemain de cette interview du maire de Wuhan, l'OMS change radicalement de discours. C'est là où le risque du niveau régional devient officiellement mondial. Voilà, c'était Naoki de la 9VP1 qui vous a présenté comment le Covid-19 est apparu et s'est ensuite répandu dans le monde. Merci de votre écoute.
I think I'm lost in the smell of your skin, the California air. Lights are fading, a wreath are blazing. I say a little prayer. I'm down upon my knees tonight. I just wanna overdose on you. Hit me with the worst that you can do. Yeah, I just wanna overdose on you. You got me higher, you got me flying. I think I'm wasted.
intoxicated, out of gasoline. Feel the bang bang, smoke and Mustang. It's a narcocy. I'm down upon my knees tonight. I just wanna overdose on you. Hit me with the worst that you can do. Yeah, I just wanna overdose on you. You got me high, yeah. You got me flying. Overdose. You got me high, yeah. You got me flying. Overdose. You got me high, yeah. You got me flying. Overdose.
Todo lo que quiero es estar contigo porque te amo. Y si no me muere antes de tú, la vida no me importa más. Sería una locura. Y yo también tendré que morir. Es así.
I'm down upon my knees tonight. I just wanna overdose on you. Hit me with the worst that you can do. Yeah, I just wanna overdose on you.
Allô?
Hola, señoras y señores, la Radio Montreux, la radio del buen humor. La Radio Montreux, la radio del buen humor.
Je vais vous expliquer que, fort heureusement, au lieu d'incuber une mystérieuse maladie, j'ai joué avec des petits cubes qui ont fait remonter des souvenirs d'un autre millénaire. Je me présente, je m'appelle Antoine Thie, je suis enseignant de français, histoire et géographie pour les 9e, 10e et 11e à Montreux-Est. Le vendredi 13 mars, pas de bol, je rentrais d'un camp de ski de fond où je me suis beaucoup amusé. Et on nous a annoncé que, malheureusement, notre avenir allait être passablement chahuté. Bref, la suite, vous la connaissez. Le 29 avril, je me suis rendu le bon matin à mes permanences sur le site des trains. J'ai tout de suite été frappé par les salles de classe qui sont bien différentes de celles de Montreux-Est. Chaque classe est une sorte de petit monde avec sa logique, son coin lecture, son coin jeu, etc. Un monde dans lequel j'ai l'impression d'être un géant, un peu perdu, il faut l'avouer. Creusant dans mes pensées, j'essaie de me rappeler à quoi ressemblait ma première salle de classe. Je dis bien essayer car cela remonte à loin, très loin. Ce n'est même pas la décennie passée, ni même le siècle passé, mais carrément le millénaire passé, soit l'année 1991. Je peux sans problème situer sur une carte où était cette salle de classe, mais ce que j'ai fait à l'intérieur, aucun souvenir. Bref, revenons au 29 avril. Il est 7h15 du matin et mon premier élève arrive en classe. Il s'appelle Thomas et il est en 4e. Autant vous dire que c'est un habitué des lieux. C'est lui qui m'explique ce qu'il y a dans la classe, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il me demande ce que je veux faire, je lui dis comme tu veux. Il me propose d'aller faire des multicubes. Des multicubes. Des multicubes. Tout cela ne me dit absolument rien. Il tire une caisse en plastique et là, paf, c'est effectivement rempli de petits cubes multicolores. J'étais absolument fasciné. Mais oui, bien sûr, les multicubes, des petites pièces en plastique qui s'emboîtent en un point avec lequel on peut construire n'importe quoi. Thomas et moi, nous commençons chacun de notre côté, très concentrés. Et tout d'un coup, tout est remonté. J'adorais les multicubes. C'était même une de mes motivations premières pour aller à l'école. Je me souviens même d'un projet que j'avais à l'époque, reproduire le vaisseau mère de « Il était une fois l'espace ». Projet qui avait été mené avec brio avec un de mes camarades, je crois qu'il s'appelait Loïc. Un autre projet m'avait laissé un goût plus amer. Nom de code du projet, le cube parfait. Faire un grand cube avec des petits cubes, cela semble simple pourtant. Mais avec un point d'attache par cube, cela demandait des capacités d'ingénierie que visiblement je ne possédais pas à 4 ans. Je me suis souvent rapproché du cube parfait sans jamais réussir. Un immense échec qui a duré pratiquement 2 ans. Ensuite j'ai changé de classe pour une classe nulle. Une classe nulle car elle ne possédait pas de multicube. Ma mémoire m'avait fait le cadeau d'oublier ce pénible épisode. Mais de retour au 29 avril 2020, il est 7h48, je me sors de ma rêverie avec ces satanés multicubes entre les doigts. Je suis déterminé, je dois réaliser ce cube parfait. Je parle du projet à Thomas, il comprend tout de suite et me donne des trucs et astuces. Je me lance. C'est pas facile. Les pièces sont dures à détacher. En fait, il faut construire des parois séparément pour ensuite les encastrer. Bien sûr, j'aurais dû faire ça à l'époque, mais là, pas le temps pour les regrets. Il est 8h12. Après 2 mini-crises de nerfs plus tard, j'emboîte les dernières pièces. C'est bon. C'est bon. C'est fait. Je l'ai entre les mains, le cube parfait. Je ne suis pas peu fier, je dois vous l'avouer. Je peux enfin tourner cette page. Car oui, j'ai fait la paix avec les multicubes. En espérant que ce confinement vous a peut-être permis, comme moi, de vous évader, que ce soit par la pensée ou par des histoires, je vous souhaite une bonne matinée ou une journée, une soirée ou une nuit. Enfin bref, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise des cours.
L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini. L'aventure nous font face, laisse-moi te compter, il était une fois l'espace. One in love, la la where we are, where la, da la where we are, va la la where la, where la la where la, infini. Jamais on ne se lasse, tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini.
Merci Antoine Tilly pour ce clin d'œil nostalgique. Merci aussi à Saron et Audrey, ainsi qu'à Naoki de la 9VP1. Merci à Alexia de la 11VP2. À la semaine prochaine, on parlera littérature.
Sécurité. Sécurité.